Voilà, vous êtes sur Africa numéro 1, la radio africaine Aleyamba, signée Charlotte Dipanda, la chanteuse camerounaise, sera notre invitée demain à partir de 11h. Et en parlant du Cameroun, tout à l'heure à 11h, nous serons avec Monsieur Efata, l'avocat des femmes, petit pays, sera l'invité exceptionnel des matins d'été. Ce sera pour tout à l'heure à 11h. Il est 9h16 à Paris.
Le droit est nous, avec Aliou Tal, sur Africa numéro 1.
On ne déroge pas la règle, vous le savez, tous les mercredis, rendez-vous du droit sur Africa numéro 1. Avant la pause de l'été, Le droit est nous revient sur les questions posées par des auditeurs relatives à leur droit au séjour, à l'obtention de la nationalité française, à leurs études en France et au contrat de la vie quotidienne. Nous proposons des numéros spéciaux pour répondre à ces questions et vous donner la parole pour interagir avec notre juriste Aliou Tal, spécialiste du droit des étrangers en France. Et vous avez aussi la possibilité de réagir en direct en nous appelant au 0155 07 58 00, mais réagir sur le sujet du jour. Voilà, il ne faut surtout pas se disperser. Bonjour Aliou Tal.
Bonjour Phil.
Une question vous turlupine depuis?
Effectivement, j'ai eu pas mal d'appels d'auditeurs. Oui. Et je peux les assurer que je vais revenir vers eux avec une semaine chargée, mais néanmoins j'ai relevé tous les appels manqués et je reviendrai vers tout le monde. C'est pour éviter que quelqu'un appelle pour me dire juste que je n'ai pas pu réagir, mais je réagirai à tous les appels. Et j'ai pu réagir au moins à une vingtaine d'appels et j'ai fait une synthèse. Et ce qui m'a préoccupé parmi ces appels, c'est qu'il y a deux personnes qui ont soulevé une question à la fois humaine, à la fois aussi déshumanisante. C'est le cas de quelqu'un qui vit ici depuis plus de 10 ans en France.
Oui.
Et qui est parti à la préfecture pour déposer une demande de régularisation sur la base de la longévité de son séjour en France.
Oui.
A priori, ça ne devrait pas poser de problème. Avant, on se rappelle qu'il y avait l'automaticité de la régularisation à partir du moment où on a fait 10 ans en France.
C'était après 5 ans, non, à l'époque, non?
10 ans.
10 ans.
Oui, c'est ouais. Avec le gouvernement de Nicolas Sarkozy en tant que premier ministre de l'Intérieur qui a enlevé l'automaticité. Néanmoins, c'est au cas par cas, quand on fait 10 ans, normalement...
Mais il faut prouver ces 10 ans.
C'est là où c'est assez difficile.
Et
c'est là
où la question de vie en France.
Très bien. Et c'est là où la question de l'auditeur a été très très pertinente et qui m'a beaucoup préoccupé. Et il n'était pas le seul parce qu'il y avait une autre personne qui était concernée qui m'a appelé en début de semaine. Et il y a 2 ans, j'ai traité un cas de figure similaire. Ça veut dire que ce ne sont pas des cas anodins isolés. Le problème qui s'est posé avec cette personne, c'est d'abord la question de preuve, comme vous l'avez souligné à juste titre. Il s'est avéré que cette personne a travaillé pendant un temps sous alias, avec un nom d'emprunt, il a utilisé le titre de séjour de son cousin. Mais ce n'est pas simple. Le cousin lui avait loué ce titre de séjour.
Ah.
Il devait payer la moitié de son salaire tous les mois pendant 5 ans à son cousin.
Très grave.
Cousin, je vais le dire entre guillemets pour moi.
Ben, ça, c'est
parce que quand même, 50-50 sur 1200 euros qu'il gagnait, c'est une sinécure.
Mais non, ce n'est plus un cousin.
Oui, c'est vraiment une sinécure. Et le pire, c'est que non seulement on lui dit que pour cette période, on ne peut pas considérer que vous étiez là, parce que toutes les preuves que vous avez données, c'était plutôt des preuves avec le nom d'emprunt.
Mmh.
Il travaillait en tant que maître chien. Tout ce qu'il avait comme carte professionnelle, c'était avec le nom de cette personne. Aussi,
pendant
10 ans, les chèques étaient encaissés, le salaire, par le cousin qui lui rétrocédait la moitié, 600 euros en l'occurrence. Ça m'a fait un peu peur en entendant ça, parce que 600 euros, parce qu'on a... Ça, c'est vraiment de l'esclavage moderne, à mon sens. Donc, ce n'est plus une relation familiale, c'est un jugement personnel. Après, maintenant, les gens peuvent être contraints de l'accepter.
Ou pas.
Et cette personne n'avait pas le choix, parce que quand on est là et qu'on vient d'arriver et qu'on ne voit pas le bout du tunnel, en général, on n'a pas le choix de dire oui ou non.
L'accepter pendant une dizaine d'années, c'est beaucoup.
Ah, ça peut être pire encore. J'ai vu pire, 25 ans. Dans un foyer du 13e arrondissement, il y a 10 ans de cela, où j'ai aidé quelqu'un, j'étais obligé de l'extirper de cette situation et de le convaincre qu'il doit quand même s'assumer et qu'à partir de là, essayer de trouver des preuves par témoignage, ce qui a pu marcher pour cette personne. Mais pour revenir au cas qui nous concerne, pour cet auditeur, ce qu'on doit lui dire, parce qu'il m'a posé des questions. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que sa demande de séjour quand même puisse marcher? Est-ce qu'il a lieu de faire un recours? Je lui dis oui. Deuxième chose, cette personne s'est rendu compte qu'il a été esclave de son cousin pendant un temps.
Abusé.
Et est-ce qu'il a une procédure contre ce cousin?
Ben oui.
Là, c'est une question délicate parce qu'il y a la relation de parenté.
Hum.
Mais quand même, je vais donner des solutions. La première réponse par rapport à la préfecture. Même s'il a travaillé pendant un temps avec un nom d'emprunt, depuis un temps, on peut prouver son travail personnel avec le nom d'alias. On peut le trouver à partir du moment où on parvient à montrer qu'il y a une concordance d'identité. Même la préfecture de Paris, par exemple, avait donné un formulaire de concordance d'identité. Si on montre que c'est bien moi, Aliou Tall, qui ai travaillé avec le nom de Phil, et qu'il y a des preuves, des indices de preuves qui montrent que c'est bien moi, parce que l'autre cousin travaillait à temps plein. Il était peu probable qu'en même temps, lui, il se trouve à Paris et que l'autre travaille à je ne sais pas, à Barbès-sur-Rochechouart, ou bien, alors que lui, il est dans le 18e arrondissement. En montrant qu'il y a deux personnes qui travaillent simultanément avec le même nom dans des lieux différents, les fils de pays peuvent valoir preuve. Et maintenant, c'est une preuve qui est très probante pour la régularisation.
Le cousin est-il poursuivable à l'UTAL?
Voilà, ça c'est la deuxième question. Mais la première, il fallait d'abord lui dire que c'est possible. Il doit faire un recours, essayer de chercher d'abord des éléments qui prouvent la concordance d'identité, que c'est bien lui, Alpha, qui a utilisé le nom de Beta et qui a travaillé avec. Et ça, c'est possible. Avec un tel recours, effectivement, il peut avoir gain de cause. Deuxième élément, il n'a pas été convoqué. Il n'a pas été convoqué pour donner ses observations devant une commission. Or, quand on a fait 10 ans ici en France, on doit être convoqué devant une commission qui lui a donné son avis. Même si l'avis ne lie pas la préfecture, cette convocation est obligatoire. Par contre, la préfecture se retranche derrière le fait que les preuves ne sont pas probantes. Donc, vous avez 10 ans, mais on défalque 5 ans. Il ne vous reste que 5 ans. On n'est pas obligé de vous convoquer pour avis à la commission. Dans son recours, il doit insister sur cet élément. C'est très important. S'il a un bon juriste qui le conseille, il peut avoir gain de cause. Deuxième réponse par rapport à son cousin. Il a fait un deal avec ce cousin. Il faut le reconnaître. A priori, ce qu'ils ont fait n'est pas dans la légalité. Ouais.
Je pense que c'est plutôt le cousin qui a fait cette proposition.
Oui, mais quel que soit Alpha, il a été d'accord, on ne lui a pas imposé ça. Vous comprenez? Or, il y a un principe de droit qui interdit qu'on puisse tirer profit d'un fait contraire à la loi. Nemo juris plus turpitudinem allegans. On ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Il a fait preuve de turpitude en l'acceptant. On n'est pas obligé, on n'est même pas obligé de venir en France. Quand on vient ici, c'est un choix. Vous comprenez? Même si parfois, il y a des gens qui viennent par contrainte dans le cadre de l'asile, qui risquent des persécutions, on n'est pas dans ce cas de figure. C'est quelqu'un qui est venu pour des raisons économiques et qui a été content d'accepter cette situation. Mais ça, c'est la règle. La réponse que je lui donne néanmoins, il peut attaquer le cousin par abus de faiblesse parce que le cousin a utilisé sa situation de faiblesse. Et là, c'est une situation qui va surpasser ce que je viens de dire, l'interdiction de profiter d'une turpitude, une mesure plus turpitude, une élégance. Donc, il doit démontrer qu'il n'avait pas le choix, il était dans un système d'esclavage moderne et que ça, c'est interdit, c'est prohibé par la loi. Ouais. S'il veut attaquer son cousin, ce n'est pas ce que je lui conseille. Néanmoins, parfois, vous savez qu'il est africain. En tant qu'africain, parfois, il trouve des solutions. Il faut d'abord trouver des solutions amiables et si ça ne marche pas, effectivement, il a ce droit de le faire.
Voilà, c'était donc la question qui turlupinait notre juriste Aliou Tall. Ne bougez surtout pas, le droit et nous revient juste après la pause. Il est 9h et presque 30 minutes à Paris.
Le droit et nous avec Aliou Tall sur Africa numéro 1.
Comme tous les mercredis, on poursuit avec le droit et nous. Et n'oubliez pas de réagir en direct sur le sujet du jour. Oui, 01 55 07 58 00. Avant la pause de l'été, le droit et nous revient sur les questions posées par des auditeurs qui ont désiré garder l'anonymat. Des auditeurs relatifs à leur droit au séjour, à l'obtention de la nationalité française, à leurs études en France et au contrat de la vie quotidienne. Nous proposons donc des numéros spéciaux pour répondre à ces questions et vous donner la parole pour interagir avec notre juriste Aliou Tall, spécialiste du droit des étrangers. J'ai fait une demande de titre de séjour et cela fait 2 ans que la préfecture ne m'a pas répondu. Que dois-je faire, Aliou Tall?
Alors, question intéressante parce qu'elle concerne beaucoup de personnes. Ouais. Il y a un paradoxe du droit français. On donne théoriquement à l'administration 4 mois pour traiter une demande de titre de séjour. Or, il s'avère que dans la presque totalité des cas, la préfecture dépasse ce délai. Donc, ça veut dire que matériellement parlant, la préfecture n'a pas les moyens de traiter ce dossier dans 4 mois. Or, ce qu'il faut retenir impérativement, c'est qu'il y a un principe de droit administratif qui veut qu'en matière de droit des étrangers, si vous déposez une demande de titre de séjour et qu'au bout de 4 mois, la préfecture ne vous répond pas, cela peut être considéré comme une décision implicite de rejet. Je dis même peu, mais cela est considéré dans l'absolu comme une décision implicite de rejet. Ça veut dire que théoriquement, après 4 mois, votre demande de titre de séjour est rejetée. Mais dans les faits, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il y a un encombrement administratif qui engendre un dysfonctionnement administratif qui fait que la majeure partie des demandes ne seront pas traitées avant 4 mois.
Exactement.
Qu'est-ce que maintenant l'étranger doit faire dans ce cas de figure ?
C'est long, 4 mois.
4 mois, c'est long, mais 2 ans, c'est encore plus long. C'est le cas de figure qui nous est soumis. 4 mois, c'est déjà beaucoup, mais maintenant, ce n'est rien pour la majeure partie des étrangers qui connaissent les rouages de l'administration, à force de faire des va-et-vient pour avoir un rendez-vous, pour déposer un titre de séjour, pour venir compléter d'autres pièces, et pour peut-être donner des timbres, et ainsi de suite. Ça ne sera jamais 4 mois, hein, en général. Maintenant, ce qu'il faut faire, la prudence, c'est que au bout de 4 mois, il faut écrire à la préfecture pour être sûr que votre demande n'a pas fait l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision implicite de rejet. Il faut tout simplement écrire pour savoir, je veux savoir si l'examen de ma demande est toujours en cours et si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mais mieux encore, si vous avez des doutes ou bien si vous êtes assez diligent, il faudra mettre injonction. Il faut demander à l'administration que si le cas échéant, si l'administration considère que votre demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, elle a l'obligation de vous communiquer la motivation de ce silence.
D'accord.
Cela relève d'une loi depuis 1979 qui a été corroborée par le Code des relations entre l'administration et le public qui veut que, impérativement, dans ce cas de figure, l'administration a un mois pour dire à l'usager, en l'occurrence l'étranger, si le cas échéant, sa décision doit être vue comme une décision implicite de rejet, elle est tenue de dire quelle est quand même la motivation du rejet. Parce qu'on est en matière de mesure de police. Une mesure de police qui peut priver la liberté d'aller et de venir, la liberté de séjourner. Dans ce cas de figure, l'administration doit vous répondre sur la motivation au bout de un mois. Si elle ne le fait pas, cela va ouvrir les voies de recours, comme s'il y avait une décision explicite. Ça veut dire que vous pouvez saisir le tribunal administratif pour demander à ce que ce tribunal se prononce sur votre demande de titre de séjour. Le tribunal le fera en lieu et place de la préfecture et vous saurez si vous avez droit ou pas à un titre de séjour. Ça, c'est le conseil que je donne à cette personne, à toute personne qui est concernée par ce procédé. Si par contre, vous vous rendez compte que c'est assez délicat pour vous, vous devez voir un spécialiste, soit un juriste, un avocat ou bien une association, au moins qui a la compétence en matière de droit des étrangers.
Poursuivons avec une autre question. J'ai fait une demande de regroupement familial et j'ai obtenu une réponse positive de la préfecture. Le consulat français dans mon pays a pris plus de 2 ans pour donner le visa à mes enfants. Le consulat toutefois a refusé de donner le visa au plus âgé de mes enfants qui est devenu majeur entre-temps. Y a-t-il une possibilité pour faire venir mon fils majeur qui vit seul au pays maintenant ?
J'ai eu à traiter un cas de figure similaire pour un ressortissant malien, cela remonte à 10 ans. Il avait un enfant, dont d'ailleurs je garde le nom tellement on s'est battu pour que l'enfant puisse venir en France. Et il a eu la réponse positive de la préfecture. Et que le tribunal devait se prononcer, autant pour moi, le consulat français qui est à Bamako devrait traiter le dossier pour tous les enfants. Et il y avait un enfant, le dernier, qui est devenu majeur. Malheureusement, qui n'a pas pu bénéficier du regroupement familial. Donc ce n'est pas sa faute. Et après,
le mouton noir des enfants.
Effectivement, on lui a dit. Et donc, ça crée une séparation, comme cette question. Ça crée une séparation de la famille.
Ouais.
Or, le monsieur avait introduit largement la demande 2 ans avant que l'enfant ne devienne majeur. Donc, l'enfant est devenu majeur avec la lenteur administrative. C'est l'administration, en l'occurrence le consulat, qui a créé cette situation. Donc, cette personne était désemparée, pensait qu'il n'y avait aucune solution. La première chose à faire dans ce cas de figure, c'est d'écrire au consulat français d'abord, de les mettre en demeure d'assumer le retard, le dysfonctionnement qu'il y a eu lieu et de donner les visas même si l'enfant est devenu majeur par la suite. Si on comprenait que c'est la personne, l'étranger qui veut faire venir son enfant qui n'a pas fait preuve de diligence en commençant la procédure assez tôt, par exemple au moins avant les 17 ans de l'enfant, on peut comprendre qu'effectivement le dernier enfant ne peut pas en bénéficier parce qu'il est devenu majeur, pas du fait de l'administration, mais de la tardivité de la demande de ses parents. Mais dans ce cas de figure, c'est un dysfonctionnement administratif. Il faut écrire au consul, en l'occurrence du pays où se trouve l'enfant, et aussi, après, écrire à l'autorité hiérarchique des consulats, ça veut dire le ministre des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, quelle que soit la dénomination. Donc, il faut écrire à ce ministère. Il y a des juristes très compétents et très réactifs. C'est ce qu'on a fait. Et ils ont pu diligenter une enquête au niveau du consulat pour savoir ce qui s'est passé. Et dans le cas de figure que j'ai évoqué, ils ont dit que non, il n'y a pas eu de dossier. Ils ont perdu le dossier. Or, ce n'est pas vrai. On a eu la trace.
La traçabilité.
Il a tout gardé. On a montré au ministère que non, ce n'est pas vrai. Ouais. Le dossier existe bien pour cet enfant-là. Et finalement, ils ont assumé le dysfonctionnement de l'administration et cet enfant a eu rétroactivement le visa long séjour donc pour venir en France. Mais autre solution, comme l'enfant est isolé, si cette procédure ne marchait pas, L'enfant étant risquant d'être isolé dans son pays d'origine, c'est le cas qui a été évoqué. Du fait de son isolement, il a le droit de revenir ici avec un visa long séjour pour retrouver le reste de la famille.
Oui.
Il y a un dispositif de droit fondamental qui relève de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le droit à une vie privée familiale normale.
Normal.
On ne peut pas mettre une personne dans un isolement familial ici alors que ses parents ont droit au séjour en France. Cette disposition communautaire qui relève du droit européen a été consacrée dans le Code des étrangers en France à travers l'article L313-11-7 du CCEDA qui lui permet de demander un titre de séjour pour son enfant, un visa long séjour. C'est ce que ce monsieur doit faire. En dernier lieu, s'il se sent lésé et que ça ne marche pas, il peut même demander des dommages d'intérêt. Sur la base du principe de la responsabilité civile, comme je le dis souvent, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc sur cette base, il peut solliciter un juriste, s'il n'est pas content, à réclamer à ce que justice soit faite.
Voilà, 0155 07 58 00, nous sommes en direct, donc n'hésitez surtout pas à composer ce numéro et réagir sur les questions du jour ou si vous avez une question à poser à Maître Tal. Mes parents se sont arrangés pour qu'un Français me reconnaisse comme fils à sa place. Avant de poursuivre, on va tout de suite prendre cet auditeur. Allô, allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur. Oula, nous vous attendons difficilement. Allô, allô.
Oui, allô.
Je pense que vous avez porté un casque.
Oui, oui, oui.
Ah, mais avec votre casque, on vous entend très très mal.
Allô.
Ah, voilà, là, c'est plutôt sérieux.
Voilà.
Oui, sinon, on va vous donner un carton jaune en direct. Hein. Vous voulez pas prendre un carton jaune?
Non.
Ah, d'accord, parce que sinon, on distribue les cartons jaunes à ceux qui ne veulent pas respecter la qualité sonore de la radio.
Moi, j'ai que des rouges, moi.
Ah, présentez-vous, comment vous appelez?
Je m'appelle Youssouf.
Youssouf, nous vous écoutons, oui. Youssouf.
Et voilà, moi, j'ai demandé titre de séjour pour étrangers malades. Mais ils m'ont donné restitué pendant 1 an et 3 mois. Mmh. Et restitué de 3 mois. Après, ils m'ont fait rejet. Mais j'ai pu créer une entreprise. Vu que je travaille dans le bâtiment, j'ai pu créer une entreprise comme auto-entrepreneur. J'ai Kabi, tout. Mais voilà, j'ai 4 vitales aussi. Mais pour le titre de séjour, je ne sais pas comment ça doit se passer ou comment je dois faire encore. Parce que là, il a été rejeté. Mmh. Il a demandé une annulation pour ça avec l'avocat. Bon, là, il ne sait pas comment il doit faire encore.
D'accord. Alors, en fait, votre rejet, ça date de quand?
Ça date de janvier, oui.
De quelle année?
De 2018, là.
Janvier 2018?
Non, 2017, pardon.
Janvier 2017.
Ouais. Non, 2018. 2018.
2018, là. C'est l'année-là. Ça veut dire qu'il y a quelques mois.
Oui. Oui.
D'accord. Vous avez fait un recours contre la décision de rejet pour votre situation sanitaire. Vous avez fait une décision. Vous avez fait un recours contre la décision.
Oui, oui. On a fait recours. On a fait recours. Et oui, on a fait recours. On a envoyé une chose. L'avocat m'a donné des dossiers. Mm-hmm. D'aller déposer au tribunal.
Mm-hmm.
Je suis allé déposer. Mmh. Là, il m'a envoyé une lettre et l'avocat m'a demandé d'envoyer la lettre de la facturer parce que l'avocat n'est pas là.
Mmh.
Elle n'est pas partie parler.
D'accord. Maintenant, en fait, ça veut dire que votre dossier est toujours devant le tribunal. Vous n'avez pas encore eu une réponse.
Voilà, ils ont donné réponse. Mais l'avocat m'a rien dit pour l'instant. Je ne sais pas.
Monsieur, ma question est, vous avez fait un recours avec un avocat. Est-ce que vous avez encore une décision? Vous avez déjà une décision du tribunal ou pas encore?
Non, pas encore.
Vous n'avez pas une décision, d'accord. Donc là, on ne va pas revenir sur le contenu de ce qui a été fait par votre avocat. Certainement, il a fait le travail qu'il doit faire. Mais je peux vous dire d'abord, juste des conseils. Suivant votre pays d'origine, ils vont considérer avec les informations qui sont données par les autorités consulaires si la pathologie dont vous souffrez peut être soignée dans votre pays d'origine. En général, la préfecture se base sur ça. On a pu vous dire que votre maladie ne nécessite pas que vous restiez en France parce que vous pouvez bénéficier d'un traitement dans votre pays d'origine.
Oui.
Normalement, c'est ce qui est marqué dans votre décision.
Uh-huh.
Voilà, parce que ce qui vous permet d'avoir décidé de séjour, c'est l'article L313-11-11 du Code des étrangers qui dit que tout étranger malade qui ne peut pas bénéficier des soins dans son pays d'origine peut avoir droit à un titre de séjour ici pour soins.
Oui.
Néanmoins, systématiquement, la loi a changé depuis 2016. Maintenant, il y a un collège qui dépend de l'OFI. C'est ce collège de médecins qui est compétent pour dire si oui ou non vous pouvez avoir ce titre de séjour. Avant, c'était le médecin de l'ARS, l'agence régionale de santé, avec la contre-expertise du médecin de la préfecture. il y a eu un changement important, à la fois au niveau de cette procédure, mais dans le fond. Oui. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, depuis le 1er janvier 2017, depuis le 1er janvier 2017,
2018,
je ne parle pas de votre, monsieur, je ne parle pas de votre décision. Je vous informe par rapport à la loi.
Oui.
La loi a changé le 7 novembre 2016, entrée en vigueur le 1er novembre 2016. Sauf pour les étrangers malades, la loi a changé le 1er janvier 2017. Depuis cette date, même si le plateau médical dans votre pays d'origine vous permet d'avoir les soins qu'il faut, si vous démontrez que vous ne pouvez pas y avoir un accès effectif, j'insiste sur le mot effectif parce que c'est le changement principal de la loi, la décision de rejet de votre demande de titre de séjour n'est pas fondée. Vous devez attaquer sur ce point. Votre avocat, s'il est bon en droit des étrangers, doit se focaliser sur cet élément que je viens de vous donner. Sinon, pour tout le reste, ce sera superflu, vous n'aurez pas gain de cause. Il faut voir si, effectivement, je donne un exemple. Je suis malien, on me dit qu'au Mali, à Bamako, le plateau médical me permet de soigner une pathologie comme par exemple les hépatites ou la tuberculose. Alors que moi, j'habite derrière Gao, dans une zone en tension, en tension militaire, que je ne peux pas matériellement venir me soigner et avoir un traitement quotidien. Dans ce cas de figure, le refus n'est pas valable parce que je ne peux pas avoir un soin effectif. Donc, c'est l'effectivité de l'accès aux soins qui est le changement fondamental et sur lequel doit s'appuyer votre recours. Si ça n'a pas été fait, il faut faire un mémoire complémentaire pour corriger ce qui devrait être fait. D'accord ? Ça, c'est un conseil que je vous donne pour la raison médicale. Maintenant, vous avez été autre entrepreneur. Vous avez dit que vous avez créé votre société.
Oui.
Et c'est avéré que vous, votre décision, vous m'avez dit, c'est de janvier 2018. Vous avez reçu certainement une obligation de quitter le territoire français qui a été assortie à votre rejet. On est d'accord ? Vous l'avez reçu. Dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas réintroduire une demande avant au moins un délai de 12 mois. Vous ne pouvez pas le faire. Et aussi, les délais de recours gracieux ont été expirés parce que c'est 2 mois après la date de la décision. Ça veut dire, depuis mars 2018, vous ne pouviez plus faire de recours gracieux. Vous aurez pu le faire en invoquant cet élément comme un élément nouveau et demander à la préfecture, au préfet en l'occurrence, de rapporter sa décision pour un élément nouveau. Toutefois, si vous pensez que vous remplissez les critères pour avoir, par exemple, la carte de séjour entrepreneur professionnel libéral, rien ne vous empêche d'essayer parce que la préfecture a toujours son pouvoir discrétionnaire. Le préfet, de par son pouvoir discrétionnaire, peut décider de son propre chef de tenir compte des éléments nouveaux que vous allez présenter, en l'occurrence la création d'une entreprise viable qui vous permet d'avoir les moyens de subsistance sans dépendre des minima sociaux. Vous démontrez que votre entreprise existe et que pendant que vous avez un droit au séjour, vous avez fait l'effort de vous intégrer en créant cette structure. Ça, il faut le faire à côté. Ça n'a rien à voir avec la procédure qui est pendante devant un tribunal. D'accord ? Néanmoins, en dernier lieu, votre avocat devrait utiliser cet élément devant le tribunal aussi pour dire qu'il y a un autre élément qui pourrait vous donner un autre titre d'accès au séjour en France. On est d'accord ? Voilà les éléments qui vous concernent, qui vous aideraient à régulariser votre situation. Après, vous les exposez à votre avocat s'il ne les connaît pas. Probablement, il les connaît. Mais tout le monde n'est pas spécialiste en droit des étrangers. Ça se pourrait qu'il y ait des éléments qu'il n'a pas utilisés. S'il ne les a pas utilisés, vous pouvez leur donner ces éléments que je viens de vous indiquer. D'accord ? Et ça pourrait vous aider.
Donc, après l'annulation,
Nous avons beaucoup d'appels.
Après, si vous avez, monsieur, besoin d'informations supplémentaires, je donnerai mon numéro de téléphone.
Voilà.
Après, je pourrai vous donner des indications
spécifiques. Exactement,
vous aurez
des indications spécifiques. Tout à l'heure, vous aurez le numéro de téléphone. Donc, restez bien à l'écoute. On va enchaîner avec un autre auditeur. Allô, allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Il ne dit rien. Allô, allô. Alors, je vais donner votre numéro à l'antenne. Hein, 0620. C'est monsieur ?
Oui, allô ?
Oui, c'est monsieur ?
Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Desailly. Monsieur comment ?
Desailly.
Monsieur Desailly, vous voulez un carton jaune ?
Je voudrais juste que tout le monde se pose.
Allô, monsieur Desailly.
Oui.
Vous voulez un carton jaune ? Ah non, parce qu'il faut, il faut arrêter, il faut arrêter votre poste. Il faut arrêter votre poste. Il faut justement... Ouais, il faut arrêter votre poste parce qu'on vous entend doublement.
Ah oui, attends.
Bah, il est en direct en tout cas. On va.
J'ai arrêté le poste là-dedans.
D'accord, allez-y, nous vous écoutons.
Oui, alors la question que je vais poser, c'est celle-là que tous les sociétés africains se posent. Nous avons les enfants qui sont restés au pays, mais qui sont devenus des majeurs. Ils sont isolés. Et ils ne sont pas mariés, ils sont là. Et ils veulent bien rejoindre leurs parents. Est-ce qu'il y a une solution pour cela ?
Pour le regroupement familial.
Oui, en fait, il parle d'enfants majeurs. Mmh. Les enfants majeurs ne sont pas concernés par la procédure de regroupement familial. La procédure de regroupement familial concerne des enfants qui sont mineurs. À partir du moment où ils sont majeurs, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes à faire la procédure pour venir vous rejoindre en France. Donc, effectivement, maintenant, il y a des cas de figure. Donc, selon votre situation, si vous avez un titre de séjour de 1 an, si vous avez un titre de résident, ou bien si vous avez la nationalité française. Si vous avez, par exemple, un titre de résident et que vous avez d'autres enfants ici, ce que je dis vous, pour toute personne qui est concernée, tout étranger qui est en France, qui serait concerné par ce cas de figure, je viens de donner une solution. Ça veut dire que si l'enfant est isolé, si vous démontrez que l'essentiel des attaches familiales de cet enfant-là, qui est votre enfant, se trouve en France, vous pouvez demander un visa long séjour pour cet enfant-là. Comme je l'ai indiqué sur la base de l'article L313-11-7A du Code des étrangers, vous pouvez le faire. Si aussi vous pensez que pour l'intérêt de l'enfant, pour des motifs humanitaires, ce serait très délicat que votre enfant reste là-bas, ce n'est pas bon pour son évolution ni pour son éducation, surtout pour son éducation. Si tu se trouve dans un quartier assez sensible à Dakar, à Yembol ou bien à Yopougon, à Abidjan, je donne des exemples, hein, vous pouvez utiliser cet élément pour dire pour des motifs humanitaires en évoquant l'article L313-14 du CCEDA. Mais plutôt, ce qu'il faut, c'est demander le visa long séjour si vous vivez ici avec toute votre famille en prétextant l'isolement familial de votre enfant qui est majeur là-bas. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Parce que si c'était un enfant mineur, il faut juste faire la procédure de regroupement familial. Dernière solution, si vous avez la nationalité française, c'est un cas de figure qui arrive assez souvent. Un auditeur m'a appelé d'ailleurs, que je vais voir aussi, qui a eu un enfant qui est âgé de plus de 21 ans. Il a demandé le visa long séjour pour son enfant. On lui a dit que votre enfant a 21 ans. Mais non, ce n'est pas un fait. S'il parvient à démontrer qu'il prend à charge cet enfant-là, effectivement, cet enfant a systématiquement droit à un visa long séjour pour rejoindre sa famille ici. Et une fois sur place, l'enfant va aller à la préfecture, il aura droit automatiquement à un titre de résident de 10 ans. Voilà les solutions qui se présentent pour vos enfants dans les cas de figure que vous évoquez.
Voilà. Merci, maître. Je prends bien rendez-vous pour que vous m'expliquiez mieux.
Il n'y a pas de souci. Il y a des solutions. Il faut juste respecter le droit et ne pas contourner, de faire
exactement
n'importe quoi. Surtout des visas qu'on vend là-bas, après qui vont faire que votre enfant ici va se retrouver dans une situation très délicate. S'il est majeur, il a besoin de faire sa vie. Il ne faut pas l'entraîner dans une situation très délicate. Il y a des possibilités légales. Il faut les savoir et les respecter. Et en général, quand on suit jusqu'au bout, on aura gain de cause. Sans pourtant dépenser des fortunes, sans pourtant contourner la loi ou violer la loi plutôt. Voilà.
Exactement. Merci, maître.
Je vous en prie. Voilà, merci.
Je reste à l'écoute pour le numéro.
Pour le numéro de téléphone, ce sera tout à l'heure. Alors, on va enchaîner avec un autre auditeur. Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, c'est monsieur.
Monsieur Jean-Bernard.
Monsieur Jean-Bernard, vous venez de vous réveiller, en fait.
Oui.
Ah, voilà, parce que vous allez nous endormir avec vous, là.
Non, il faut qu'il amène le café. Jean-Bernard, il faut amener le café et les croissants. On vous attend.
Jean-Bernard, en fait, il a célébré la victoire de l'équipe de France jusqu'au petit matin.
Oui, un petit peu, oui.
Ah, d'accord, on a compris. Vous êtes pardonné alors, nous vous écoutons.
Oui, je vous appelle, c'est pour un de mes amis qui travaille avec des papiers d'une autre personne. Donc, il a un contrat, il m'a dit qu'il a un contrat à durée indéterminée. Mmh. Et le problème, comme il travaille avec les papiers, l'argent qu'on lui donne, l'argent est versé directement sur le compte de la personne avec le papier avec lequel il travaille. Mmh. Et il ne sait vraiment pas comment faire pour... Il est un peu embêté, quoi. Donc, moi, je voudrais que si vous pouvez me donner votre numéro pour que lui puisse vous contacter. Mmh. Et ça sera beaucoup mieux, quoi.
D'accord. Très bien. On va donner les numéros. Mais néanmoins, comme j'ai dit tantôt, on peut dire à votre ami déjà, parce qu'il faut donner des informations générales qui peuvent concerner aussi d'autres personnes. Après, effectivement, je peux donner des conseils quand vous m'appellerez. Mais ce qu'il faudra dire à cette personne ou à toute personne qui est dans ce cas de figure, c'est de prendre la précaution de garder des traces. Même si on n'a pas la preuve que c'est nous-mêmes, il y a forcément des indices concordants. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est en planning, ou bien qui a une carte professionnelle avec sa photo, même avec, il s'appelle Mamadou, mais normalement, il travaille avec les papiers de Jean-Pierre. Il doit garder la preuve. Il y a forcément des traces, on ne s'en rend pas compte. Le planning, des photographies du lieu où on travaille. On est vigile, c'est McDonald's ou n'importe quelle autre structure, et qu'on est là-bas. On prend des photos de temps en temps. Ce sont des commencements de preuves qui peuvent attester que c'est nous qui travaillons en lieu et place de la personne avec le titre de séjour duquel on est en train de travailler. Ça, c'est très important. Et même si l'argent entre dans le compte bancaire, ce qui est le cas, parce que quand on travaille avec le nom de Jean-Philippe, il est très plausible que l'argent va dans le compte bancaire de Jean-Philippe. Néanmoins, il peut s'avérer qu'avec l'accord de Jean-Philippe, qu'on puisse démontrer que Jean-Philippe ne peut pas travailler 70 heures par mois ou bien ne peut pas travailler 90 heures par mois, ce qui arrive assez souvent. Donc, ce sont ces éléments-là que cette personne doit essayer d'attester. D'autres éléments, qu'il doit essayer d'attester, c'est des preuves de son existence ici en France. Ça peut être une carte, pas une carte vitale, ou bien mais plutôt la CMU, ou bien comment on appelle l'aide médicale d'État pour les gens qui n'ont pas de titre de séjour. Mm-hmm. Et les soins chez un médecin, tous ces éléments-là vont corroborer déjà son stage, son délai de stage, je veux dire la durée de, de sa vie ici en France. Il faut qu'il les regroupe. Après, il y a des éléments sur le travail, comme je l'ai indiqué, et d'autres éléments que je pourrais vous dire en fonction de sa situation personnelle. Après, maintenant, ça, ce sont des conseils génériques. En fonction de sa situation, dès que j'aurai des éléments sur sa vie, je pourrais vous dire ce qui est adapté à cette personne en fonction aussi de sa nationalité. Parce qu'il y a des accords de gestion des flux migratoires entre la France et pas mal de pays africains. Effectivement, ouais. Sur cette base, on peut s'appuyer. Ce sont des règles qui dérogent du droit commun et qui donnent plus de droits. Par exemple, à un Ivoirien, on Congolais, en Sénégalais et ainsi de suite.
Voilà.
Donc, en fonction de ça, je vous donnerai des éléments, je donnerai tout à l'heure mon numéro de téléphone.
Voilà, okay. Restez bien à l'écoute. On va terminer, ce dernier quart d'heure, il nous reste à moins de 3 minutes. On va donner rapidement la parole à Ousmane. Bonjour Ousmane.
Oui, bonjour Phil. Allez. Bonjour maître.
Ouais, bonjour.
Moi, c'est surtout pour les retraités là. Mm-hmm. Est-ce qu'un étranger peut toucher sa retraite à son pays?
Est-ce que si vous rentrez définitivement?
Oui,
vous risquez d'avoir des problèmes si vous rentrez définitivement, parce que pour le droit au retraite, la condition de stage est exigée. Donc même si vous partez, il faudra de temps en temps venir ici, sauf s'il y a une convention spécifique entre votre pays et la France. Par contre, parfois ces conventions qui existent ont le paradoxe de vous arrimer, ce qu'on appelle l'arrimage, à la réalité locale, suivant le principe d'égalité, comme ce fut le cas pour un pays comme le Sénégal. C'était un paradoxe, une bizarrerie qui a été corrigée. Par exemple, vous gagnez ici 1 500 euros, vous avez droit à 1 500 euros à la retraite, vous partez dans votre pays, il y a un système de sécurité sociale qui veut qu'il n'y ait pas de discrimination entre les retraités là-bas. Donc, si vous avez droit à 1 500 euros ici, vous pouvez vous retrouver avec 150 euros là-bas. Donc, il y a des conventions qui ne vous arrangent pas du tout en général. Il faut vérifier si dans ce qui vous concerne, vous, pour votre pays, il n'y a pas une convention spécifique. Si la convention vous permet de rester dans votre pays, vous utilisez cette convention. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux montrer que votre lieu de résidence principale est en France pour continuer donc de bénéficier donc de votre retraite que vous avez, suivant vos cotisations, suivant le nombre d'années que vous avez cotisé.
On ne peut pas laisser une procuration à quelqu'un qui touche l'argent et vous envoyer.
Vous pouvez toucher une procuration, mais on a besoin de vous ici. Ça veut dire que si vous n'êtes pas là, c'est ça le problème. Et on considère que ce n'est plus le lieu de votre vie, ça peut causer un problème. Je vous dis que ce week-end, j'ai eu un cas de figure où la personne était obligée de revenir ici parce qu'il y avait une suspension de ses droits de retraite parce que cette personne s'était éclipsée et restée dans son pays d'origine. Il pensait qu'ad vitam aeternam, elle peut rester là-bas et toucher convenablement sa retraite. On l'a convoqué, il a failli perdre ses droits parce qu'il n'a pas répondu à des questionnaires que l'organisme qui s'occupe de sa retraite lui avait envoyé. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là, bien vérifier. Après, c'est une question très délicate, hein. Si ça vous concerne personnellement, monsieur, vous êtes retraité?
Oui, je suis retraité.
Voilà, moi je peux vous conseiller bénévolement. Vous êtes retraité, après vous prenez mon numéro de téléphone, je peux vous conseiller bénévolement.
Merci beaucoup, on va justement donner ce numéro de téléphone, maître Tal.
Alors, pour m'envoyer un SMS, si vous avez besoin de conseils particuliers, surtout spécifiques, au 06 16 05 45 51. 06 16 05 45 51.
Ou faites le 01 55 07 58 00. Vous appelez le standard d'Africa numéro 1. Dieneba se fera un plaisir de vous donner le numéro de téléphone. Voilà, c'est également la fin de cette émission. Encore merci à la fin des matins d'été qui se termineront à 11h. Ne bougez pas.